Silence.
Radio Entre Deux Mers. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur Radio Entre Deux Mers, votre radio locale et associative sur le 98.4 FM, www.r2m.org. Et c'est l'heure de la conversation autour du cinéma avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, comment vas-tu?
Je vais bien, et toi?
Oui, ma foi, ça va. Bah, tu sais, retrouver les auditeurs, tu sais, comme ça nous fait plaisir.
Et oui.
De toute façon, on ne peut être que bien quand on passe une petite heure avec eux. C'est un vrai bonheur. Eh ben, c'est vrai en plus. Voilà, donc on va parler de cinéma, ok.
Et comme c'est tu ça, veux. On va partir avec eux, on va les emmener avec nous pour voir dans les salles obscures ce qu'on nous propose cette semaine sur le grand écran. Et nous débuterons, comme souvent le mercredi, avec un film d'animation de Michael Ekblad qui s'appelle L'anniversaire de Tommy.
Eh oui, L'anniversaire de Tommy, moi j'adore, hein. Vraiment, avec trois os, là, tu vois, j'adore ce petit lapin, parce que Tommy c'est un petit lapin. Donc ça dure 1h15, alors c'est de l'animation, c'est pour la famille, il y a de l'aventure. Alors ils s'y sont mis quand même à trois, il y a l'Allemagne, il y a la Suède, il y a la Hollande aussi, voilà, ils ont participé. Alors tu as dit Michael Ekblad, oui, il est réalisateur, coproducteur, il est allemand, il a 62 ans, il travaille avec l'auteur allemande, elle s'appelle Rotrott, Suzanne Bernier, et avec la scénariste allemande Adje Brücken aussi. Ils ont l'habitude de travailler ensemble, ils font de très jolies choses, je trouve. Michael Ekblad, il a animé, par exemple, Molly Monster aussi, c'est un joli dessin animé. Il a quand même participé à trois séries de télévision, il y a trois longs-métrages, deux courts-métrages, et tout ça entre 1999 et 2020. Donc, il travaille beaucoup, cet homme-là. Alors, le film, L'anniversaire de Tommy, c'est à partir de 3 ans. Alors, moi, figure-toi, j'ai appelé ma petite copine Naya. Alors, je ne sais pas si elle aura le courage d'accompagner son petit frère Liwen, mais je pense que s'ils y vont, ils devraient se régaler parce que c'est mignon comme tout, c'est très joli. Tommy, donc, c'est un jeune lapin qui vit paisiblement avec sa famille dans une jolie maison, entouré de nombreux amis. Mais la naissance de sa petite sœur bouscule les habitudes. Et à cause d'elle, la fête d'anniversaire de ses 5 ans risque bien d'être compromise. Une drôle d'aventure commence alors pour rejoindre la maison de sa chère grand-mère. C'est vraiment trop mignon. En fait, Tommy, on peut dire que c'est un petit garçon d'environ 5 ans qui bien que représenté comme un lapin, n'est pas vraiment différent d'un petit garçon humain. Outre le fait qu'il adore les carottes, peut-être, oui, il fait tout son possible pour devenir grand et indépendant. La maman et le papa habitent avec Tommy et leur bébé, la petite sœur Agnès, justement, qui vient d'arriver. Ils ont bon cœur, tous les deux. Ils sont affectueux et compréhensifs, comme des parents qui prennent soin de leur petit garçon et de leur bébé. Ils font de leur mieux pour aider Tommy à se sentir bien dans ce monde et l'encouragent à devenir indépendant. Alors j'ai dit, il adore sa grand-mère parce que sa grand-mère, elle habite dans une jolie maison avec un jardin de l'autre côté de la ville. Et Tommy adore aller lui rendre visite et jouer dans son potager ou cuisiner de bons gâteaux à la carotte avec elle. Alors les voisins, les amis, c'est Julie et Bello. Alors Julie et Bello sont donc des voisins et des amis. Et en fait, Tommy et Julie vont à la même école maternelle. Mais Tommy est un peu effrayé par le gros chien Bello. Eh ben oui, Bello, c'est un gros chien. Parce que celui-ci est toujours en train de lui sauter dessus et qu'il est le chien le plus baveux du monde. Et là, ça rappelle un peu Beethoven. Tu connais le héros Beethoven, peut-être, Damien, toi ?
Le héros, c'est-à-dire le chien Saint-Bernard qui est du nom de Beethoven.
Voilà. Oui. Voilà, et c'est un chien baveux justement, puisque dans le premier film Beethoven, le papa qui a accepté qu'on garde Beethoven se plaint de justement qu'il bave énormément. Donc ça m'a rappelé Beethoven, ce petit Bello. Voilà. Et puis il y a Guillaume et Robin qui sont deux jumeaux qui vivent également dans le même quartier que Tommy. Alors ils sont un peu plus âgés, ils vont déjà à l'école primaire. Mais enfin ils sont d'accord sur tout. Ils font toujours tout ensemble. Ils se disputent souvent, mais ils se réconcilient toujours. Mais oui. Voilà. Alors le Mikael Ekblad, il est né en Suède. Voilà. Après ses études en animation, ben voilà. Maintenant, il a beaucoup travaillé à Toronto, par exemple. Et puis il vit à Malmö. Il travaille comme animateur, dessinateur, réalisateur depuis quelques années. Ben 1985 carrément d'ailleurs. Voilà, donc il travaille beaucoup, il est très connu pour ses films justement. Et en fait, dans sa carrière de dessinateur et de superviseur des effets spéciaux, il a travaillé sur des productions internationales. Par exemple, il a travaillé pour Les Trois Brigands, pour Astérix en Amérique, pour Fifi Brin d'Acier. Tu la connais, Fifi Brin d'Acier, toi, Damien ?
Je la connais pas vraiment.
C'est une petite fille adorable. Elle a deux couettes et elle est rousse. Elle est toute rousse et elle a deux couettes. Elle est absolument adorable. Et elle a une force terrible, Fifi Brin d'Acier. Voilà, donc Tommy, c'est vraiment le film à voir. Moi, je ne sais pas si j'avais un petit enfant, là, j'adorerais l'accompagner, quoi, pour avoir un prétexte pour entrer dans la salle et regarder le film. Franchement, moi, ça me plaît énormément. Ça m'emballe absolument l'anniversaire de Tommy. Ils sont adorables. Je ne sais pas si tu avais une bande-annonce, peut-être pas.
Eh bien si, on va écouter ça.
Merci.
Bonjour tout le monde. Je m'appelle Tommy. C'est mon anniversaire. Notre aventure commence. Youpi. Me voilà. Tout le monde derrière moi.
Nous sommes vraiment, vraiment désolés, mais... comme tu le vois, il faut d'abord qu'on emmène Agnès voir le docteur. Elle est vraiment malade, elle a de la fièvre.
Nous allons partir chez grand-mère et nous allons rester chez elle pour toujours. Prêt pour le grand départ ?
Et voilà la bande-annonce de l'anniversaire de Tommy, film d'animation de Mikael Ekblad. Et un autre film d'animation, celui-là du Pays du Soleil Levant, c'est Ayumu Watanabe qui nous propose La Chance Sourit à Madame Nikuko.
Eh oui, j'adore ce titre, je le trouve sympathique, La Chance Sourit à Madame Nikuko. Bah oui, c'est une animation japonaise, tu l'as dit, c'est ça, 1h37, et Ayumu Watanabe, c'est un réalisateur, créateur japonais, il a 55 ans, il a fait déjà des choses très 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 jolies, il est très très connu aussi lui, hein. Voilà, il travaille avec les scénaristes toujours, d'ailleurs il travaille avec eux, Satomi Oshima et Kanako Nishi, Kanako Nishi c'est une auteure japonaise. Et Satomi Oshima, c'est un scénariste. C'est titré d'ailleurs, avant de lire le synopsis, c'est titré une réussite sur tous les plans. Ça a emballé la critique. Hein. Nikuko est une mère célibataire bien en chair et fière de l'être, tout en désir et joie de vivre. Un véritable outrage à la culture patriarcale japonaise. Elle aime bien manger, plaisanter, et elle a un faible pour des hommes qui n'en valent pas toujours la peine. Après avoir ballotté sa fille, Kikurin, la moitié de sa vie, elle s'installe dans un petit village de pêcheurs et elle trouve un travail dans un restaurant traditionnel. Kikurin, sa fille, ne veut pas ressembler à sa mère et ses relations avec Nikuko ne sont pas toujours simples, jusqu'au jour où ressurgit un secret du passé. Alors on a dit, hein, c'est une animation, donc il y a pas, c'est pas dramatique, hein, non plus, hein, c'est très beau, hein, c'est une belle animation, bah oui, les mangas c'est toujours magnifique. Alors en fait c'est tiré d'un roman de Kanako Nishi, La chance sourit à Madame Nikuko. En fait c'est à l'occasion d'un voyage que le réalisateur, c'était d'ailleurs avant le tsunami 2011, ce voyage, que le réalisateur s'est rendu dans un restaurant de viande grillée sur le port d'Onagawa. Voilà. Et là, l'histoire a commencé à travailler dans sa tête. Voilà. Ça s'est bien développé. Ben oui. Donc voilà, c'est une femme, Madame Nikuko, que tout le monde aimerait et qui mangerait toujours plein de viande délicieuse. Et de sa fille, on peut dire, bon, peu après la catastrophe naturelle a eu lieu, donc le tsunami, je me suis alors demandé s'il était raisonnable de poursuivre ce travail, mais mon arrogance d'écrivain l'a emporté et j'ai continué à écrire. C'est donc, c'était quand même... Ça valait la peine quand même. C'est une très très jolie histoire. C'est une très belle animation. Il n'y a pas de doute. Hein. Là, franchement, c'est très chouette. La chance sourit à Madame Nikuko. C'est pour ça que je voulais en parler quand même parce que ça met en scène un personnage féminin principal doté d'un physique rarement mis en avant au cinéma. Ça, c'est vrai. Et le réalisateur nous dit, si le spectateur se contente d'observer la plastique de Nikuko, cela peut en effet rendre le film moins attirant. Mais il y a un sens important à cela. Où se trouve la véritable valeur d'une personne? Où se cache le véritable amour? Voilà deux jolies questions. Alors, dans le roman original, le récit se déroule dans un port de pêche. Voilà. Mais là, l'équipe du film a préféré finalement ne pas reproduire fidèlement un véritable port, mais d'en imaginer un nouveau. Voilà. Notamment parce que suite au tsunami de 2011, les lieux qui avaient servi de modèle avaient disparu, purement et simplement. Alors, on nous dit que le directeur artistique du film s'est beaucoup inspiré du film Le Chocolat de Lasse Hallström, qui se déroule dans un petit village français. Voilà, qui raconte l'histoire d'une mère et de sa fille qui arrivent dans un village qu'elles ne connaissent pas, en terre inconnue, pour y ouvrir une chocolaterie. Et oui, je sais pas, ce film est sorti il y a pas mal de temps, très très joli. Alors, par exemple, dans le film là qui nous intéresse, la scène où Nikuko et Kikurin, sa fille, font du pain perdu au petit déjeuner est une image à un autre film, qui s'appelle Kramer contre Kramer, dans lequel il y a une scène de pain perdu au petit déjeuner, justement. Kramer contre Kramer, c'était Robert Benton, un cinéaste américain qui l'avait réalisé en 1980 avec Dustin Hoffman et Meryl Streep. L'histoire d'une mère qui quitte son mari, son fils, le père l'élève, ce petit, se rapproche de lui, la mère revient et demande la garde de son fils. Là, ça, c'était l'histoire. Il y a justement le pain perdu au petit déjeuner entre le père et le fils. Donc, il s'est référé à ce film également, qui est très beau d'ailleurs. Voilà, Le charme sourit à Madame Nikuko.
Et voilà donc, film d'animation.
Je ne sais pas si tu avais une bande-annonce, là.
On va l'écouter, splendide bande-annonce.
Merci. Kikurin, debout,
c'est là. Voici Nikuko, c'est ma mère. Elle n'a jamais eu beaucoup de chance avec les hommes.
Les journées ordinaires sont les meilleures de toutes.
Mais partout où elle va, elle reste fidèle à elle-même.
Je vais te montrer mon endroit secret.
J'adore cette petite ville.
Ouais, il te plaît, c'est ça?
Non, j'avais juste oublié comment il s'appelait. J'ai pas envie de partir. Je voudrais surtout pas te ressembler et pourtant...
Je suis heureuse de t'avoir avec moi, Kikuru.
Voilà pour la chance sourit à Madame Nikuko. Et maintenant, on va retrouver Nicolas Vanier à la réalisation d'un film choral, comme il en existe beaucoup dans le cinéma français. Et là, oui. Ça s'appelle Champagne.
C'est une sacrée comédie, en fait. Champagne, eh mais oui, mais Champagne, on pense à quoi là? Ah bah toi, tu penses à la boisson, si ça se trouve.
Non, moi je pensais plus à la chanson de Jacques Higelin.
Champagne. Ah d'accord, ah bah oui, Champagne. Il y a un point d'exclamation d'ailleurs dans le titre, hein. Champagne, point d'exclamation, ça veut tout dire. Alors ça dure 1h43, c'est une comédie française, tu l'as dit, Nicolas Vanier, réalisateur, scénariste, il est acteur également, il est français, il a 60 ans, 28 ans de carrière, 12 tournages à son actif. Alors en fait, on lui doit en 2009, il avait Lou, le film Lou, c'était son premier long métrage de fiction, de Nicolas Vanier, puisqu'il a réalisé pas mal de documentaires. Il y avait eu deux nominations, c'était en 2009, je viens de le dire, film d'ouverture, avant-première, donc deux belles nominations. Puis en 2013, on lui doit Belle et Sébastien. C'était Checky Cario et Félix Bossuet dans les rôles principaux. Très beau film. Et 2019, eh ben, il y a le film sorti, on en avait parlé, Donne-moi des ailes. On avait parlé à Radio Entre-deux-Mers de ce film. Et il y a Jean-Paul Rouve, Louis Vasquez dans les rôles principaux. C'est un fils qui se rapproche de son père, qui veut sauver enfin, une espèce d'oie naine en voie de disparition. Un très, très joli film, vraiment. Il faut l'avoir dans sa vidéothèque, celui-là, hein. Une nomination avant-première, ouais, pour Donne-moi des ailes. Il fait de jolis films, Nicolas Vanier. Donc, Champagne, c'est l'histoire de Jean, Patrick, Johanna, Romane et Guillaume. Ils se connaissent depuis plus de 30 ans. Leur mariage et leurs enfants n'ont pas réussi à les éloigner. Et justement, ce week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en Champagne. Voilà, le Champagne. En fait, c'est la région pour l'enterrement de vie de garçon de Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, arrivée à l'improviste, ne semble pas faire l'unanimité. Dans ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades et des réconciliations, les tensions rejaillissent. Car en amitié, tout le monde trinque. Point d'exclamation. Alors on a dans les rôles, oh c'est un joli casting, on a Elsa Silberstein qui joue Romane, on a Sylvie Testu qui joue Johanna, on a François-Xavier Demaison, ben c'est Jean. Et puis Patrick, le futur marié, c'est Stéphane de Groot. Et Guillaume, c'est Eric S.L. Mosnino. Voilà, dans les rôles, eh oui, on les connaît tous. Hein. On est très contents de les retrouver. Sinon, il y a François Berléand, il y a Ariel Semenov, il y a André Penverne, on les connaît tous en fait. Hein. Stéphie Selma, il y a Valérie Carsenti, Marie-Julie Beaupe. Il y a Claire Schust aussi qui joue, elle, Christine, la fiancée de Patrick. Eh oui, mais c'est très, vraiment un chouette casting, hein, il n'y a pas de doute. Alors, en fait, c'est un film de potes, des potes. C'est un film centré sur la thématique de l'amitié. Alors, le film, nous dit le réalisateur, ne pouvait fonctionner que si ses comédiens, les comédiens choisis, s'entendaient vraiment comme des amis. Voilà ce qu'il pensait. Tous les films de Nicolas Vanier sont éco-responsables. Il tenait absolument à ce que ça se sache. Et Champagne ne fait pas exception à la règle. Alors, par exemple, quelques exemples concrets de cette éco-responsabilité. Le référencement, par exemple, des ressources locales susceptibles de répondre aux objectifs. Ou encore l'utilisation de petites bouteilles d'eau fabriquées à partir de canne à sucre, qui est normalement un déchet de l'industrie sucrière. Et par exemple aussi des bouteilles qui seront ensuite compostées. Voilà. Ça, c'est quelques exemples concrets pour qu'on comprenne un peu ce que c'est qu'un film éco-responsable. Champagne, oh, je pense que 1h43, je ne sais pas si je l'avais dit, tu dois avoir une petite bande-annonce, Damien, peut-être.
Oui, oui, j'ai une bande-annonce que l'on écoute tout de suite.
Merci.
Ah ben, les Vlad. Oh là là. Oh. Ah ben,
allez là.
Ah, ma bijou.
Ça va.
Mais manquez, les gars.
Montez, oh, non, incroyable.
Hey, oui. Non, c'est ma chambre.
C'est marrant, il n'y a pas de bulles.
Bah non, il n'y a pas de bulles par ego, c'est un vrai clair. L'assemblage, c'est un peu comme un parfum. Il faut qu'il y ait une émotion et beaucoup, beaucoup d'amour.
Tiens, merci.
J'ai arrêté de fumer. J'ai arrêté depuis 6 mois et je ne me suis jamais senti aussi bien.
Depuis tes cri-cri.
Pourquoi c'est comme ça quand tu dis cri-cri?
Je file à la gare.
Pourquoi une balle à gare?
Et bien ça, c'est cri-cri.
Ah oui, d'accord. La meuf, tu la mets en blonde, c'est Barbie.
Il y a la moitié en plastique, hein, ça se voit direct.
C'est ça, ouais.
C'est dur d'arriver dans un clan. Vous êtes tellement soudés.
Nico m'a quitté.
Quoi?
J'ai bientôt 60 ans.
T'as 49 ans, Joe, t'es sublime, vrai.
Oh, ça arrive, les fesses qui tombent.
Oh, bah, ça, c'est la vie, hein. Ton cul décède toujours avant toi.
Mais mec, vous êtes incapable de rentrer dans un bar sans draguer.
J'ai rien fait, moi. Pourquoi tu dis vous? C'est Nico, bordel.
Mais j'ai rien fait. Alors pourquoi tu m'as rien dit?
Parce que justement, j'ai rien fait.
Mais ça fait l'innocent.
Mais je suis innocent.
J'ai changé, c'est ça?
Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour me respecter en week-end?
Ton tatouage et tes bagues, tu les as perdues, tes bagues?
Qu'est-ce qui te dit que c'est Christine qui me fait changer?
Juste que c'est pas toi, c'est tout.
Tout ce que vous aviez à faire, c'était de faire une petite place. C'était trop vous demander, ça?
On est souvent trompé en amour.
Aïe. Et quand on se retourne pour regarder en arrière, on se dit...
Vous me faites chier, bande de connards!
J'ai souffert souvent. Je me suis trompé quelques fois. Mais j'ai aimé.
C'est ça l'amitié?
Ah ben, c'est... Elle est comme ça, hein.
Voilà, Champagne de Nicolas Vanier. Et maintenant, dans la conversation autour de cinéma, on va retrouver Ferit Karahan pour le film Anatolia.
Ah, Anatolia, eh oui, très très beau film. Je ne pouvais pas passer à côté, je ne voulais pas que nos auditeurs puissent passer à côté non plus. Il a été présenté au 71e Festival International de Berlin, Panorama, et il a le prix Fipretschi Award à la Berlinale 2021. Ça dure 1h25, c'est un drame, c'est turc et roumain. Alors Ferit Karahan, tu l'as dit, c'est un réalisateur, scénariste, chef monteur turc. Il a 39 ans. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Yusuf. Enfin, ils sont deux d'ailleurs. C'est l'histoire de Yusuf et son meilleur ami Memo, qui sont élèves dans un pensionnat pour garçons kurdes isolés dans la montagne de l'Anatolie orientale. Alors on rappelle, hein, l'Anatolie orientale, c'est une des 7 régions de Turquie qui regroupe les provinces orientales du pays. Voilà. Il y a un peu plus de 40 millions de Kurdes disséminés à travers le monde. Ça, j'ai lu un peu quelque chose sur les Kurdes, j'ai appris ça. On en trouve donc en Turquie, en Iran, en Irak, en Syrie. Mais enfin, le noyau dur reste au sein du Kurdistan historique, puisque le Kurdistan n'est pas un État, il n'existe pas. Hein. Mais c'est pour ça qu'on dit que c'est le Kurdistan historique. Alors Yusuf donc, et son meilleur ami, je l'ai dit, sont isolés donc, dans cette école de l'Anatolie orientale. Lorsque Memo tombe mystérieusement malade, Yusuf est contraint de surmonter les obstacles bureaucratiques dressés par la direction autoritaire et répressive de l'école pour tenter d'aider son ami. Mais au moment où les adultes comprennent enfin la gravité de l'état de Memo et essaie de l'emmener à l'hôpital, l'école est ensevelie sous une tempête de neige. Coincés dans l'impossibilité d'obtenir de l'aide, les enseignants et les élèves se rejettent la balle. Rancune, sentiment de culpabilité et secrets cachés émergent alors que le temps passe inexorablement et menace d'emporter Memo. Alors dans les rôles, ce sont des acteurs turcs, hein, Mais c'est intéressant justement de connaître un peu ces acteurs, parce que c'est vrai qu'on ne les connaît pas vraiment. Alors on a dans le rôle de Youssouf, on a Samet Yildiz. Ensuite, on a Ekinkos, Mahir Ipek. Et Memo, c'est Nouroula Alaka qui joue le rôle. Ils sont formidables. Hein. Là, les deux jeunes acteurs sont vraiment assez extraordinaires. Alors, Farid Karaan, le réalisateur, a vécu la peur et le climat général que vivent les enfants de son film. Il a passé 6 ans dans un pensionnat très strict. On peut dire à ce niveau-là que c'est un film autobiographique. Alors, fin 2015, on s'en souvient, le Moyen-Orient est aux prises avec la guerre. Les Kurdes sont gravement touchés. Le climat a changé en Turquie après la tentative du coup d'État en 2016. Ça, c'est important quand même de le savoir pour bien comprendre le film, le regarder. La neige, nous dit le réalisateur, est un des personnages centraux du film. Elle devait être d'ailleurs omniprésente pendant tout le tournage de Anatolia. L'endroit du tournage est particulièrement hostile, nous dit-il. Alors, l'année qui a suivi le tournage, une avalanche s'est abattue sur le chemin que nous prenions chaque jour. 42 personnes sont mortes. Le cinéaste a vu plus d'un millier d'enfants pour son casting et il les a trouvés. Youssouf, d'ailleurs, c'est le jeune Samet Yildiz qui a trouvé le réalisateur et qui s'est proposé. Extraordinaire, ça. En Turquie, le nombre de pensionnats dépasse le millier, en particulier, dans les régions où les Kurdes sont nombreux. Eh ouais, on ne sait pas qu'il pourrait y en avoir autant de pensionnats. Alors c'est un film quand même qui est difficile, hein, c'est terrible quoi, cette vie qu'ils ont, ces enfants, dans ces pensionnats. Enfin, on peut pas en dire trop. Le film a été présenté au Festival de Berlin, je l'avais dit, hein, 71e, je l'ai dit au début. Je suis un peu troublée, moi, par cette histoire, parce que on n'imagine absolument pas ce genre de pensionnat chez nous, par exemple en France. Je ne pense pas, je n'espère pas que ça existe. On n'a pas... J'espère pas. Hein. On ne peut jamais être sûr de rien, mais bon. Anatolia, c'est un très beau film. Vraiment. Ouais.
Et c'est réalisé par Ferit Karaan.
Ah oui, réalisateur turc. 39 ans, hein. C'est son histoire quasiment, de gosse. Hein.
Anatolia, ça s'appelle, et c'est à retrouver dès aujourd'hui dans les cinémas. Et nous allons poursuivre avec un film de Santiago Mitre qui s'appelle Petite Fleur.
Oui, quel joli titre, hein, Petite Fleur. Et pourtant, il y a un avertissement. Des propos, des scènes et des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Il ne faut pas se fier au titre, jamais. Petite Fleur, ça dure 1h38. C'est une comédie, mais c'est un thriller également. Alors, il y a 4 pays qui s'y sont mis quand même. La France, l'Argentine, la Belgique et l'Espagne. Et tu as dit Santiago Mitre, et c'est un réalisateur, scénariste, producteur argentin. Il a 41 ans, 12 ans de carrière. Il y a 7 tournages à son actif, on lui doit quand même. Alors, moi, je me souviens, enfin, j'ai mis de côté le film qu'il a tourné, enfin, qu'il a réalisé en 2015, qui a eu 2 prix, d'ailleurs, le prix Fipreci, ça y est, je me trompe comme tout à l'heure, c'est le premier prix, plus 3 nominations à la Semaine internationale de la critique, Paulina. Et puis ensuite, il a eu le grand prix Nespresso aussi, pour son film qui s'appelait, enfin je viens de dire le titre en fait, Paulina. C'était Dolores Fonzi, Oscar Martinez qui jouait les rôles principaux. C'est l'histoire d'une jeune fille, brillante qui est agressée par ses élèves et qui va tenter de toute façon de rester fidèle à son idéal social, à sa mission pédagogique. Malgré tout, très beau film. 2017, c'était El Presidente qui a eu 5 nominations à Cannes en 2017. Alors, Petite Fleur, il s'agit de... Bah, c'est l'histoire d'amour, en fait, de famille. Le couple, L'amour et la vie de famille sont de bien belles aventures que vivent José et Lucie, jusqu'au jour où l'ennui s'installe. Lucie consulte alors un psychologue pour sauver leur couple. De son côté, José vient me voir, moi, Jean-Claude, leur voisin. Ensemble, nous lançons une nouvelle thérapie. Trinquer, danser et jouer au meurtrier tous les jeudis. C'est la nouvelle recette du bonheur. Point d'exclamation. C'est une comédie, mais il y a du fantastique. Enfin, je ne peux pas trop parler de l'histoire parce qu'on ne peut pas dévoiler. Enfin, pas trop dévoiler quand même. Mais en tout cas, il y a un joli casting qui fait envie. On a Melvin Poupeau, voilà, qui joue Jean-Claude, ce voisin que José vient voir. Alors, il est marrant, Melvin Poupeau, parce que on ne le connaissait pas trop comme ça. Il a une fine moustache, il a des cheveux plaqués en arrière. J'avais marqué « Yes !» On a un peu de mal à le reconnaître, Melvin Poupeau, qui est un grand comédien. Bah, tous, là, d'ailleurs. On a Daniel Handler aussi, c'est José. Lucie, c'est Vimala Ponce. Alors, c'est pareil, Vimala Ponce, on la connaît absolument. On peut avoir oublié son nom, mais on la reconnaît aussitôt, hein, si on a l'habitude d'aller au cinéma. On a Sergi Lopez aussi dans ce film. Oula, Sergi Lopez. Ah oui, lui, il a souvent des rôles d'un type un petit peu inquiétant, quand même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, Damien. Il est toujours un petit peu un ami qui vous veut du bien, par exemple, le film. C'était quand même un drôle de type, quoi. Ça qui faisait un peu froid dans le dos. On a Françoise Lebrun, on a Hervé Villard. Mais oui, on a Nathalie Boyer. C'est titré le film le plus mortel de l'année. Il y a de l'humour là-dedans, quand même. Alors, Santiago Mitre, le réalisateur, a tourné Petite Fleur en France et pas dans son pays, l'Argentine. Eh ben oui. Alors, le film est tiré d'un roman d'un auteur argentin que le réalisateur aime beaucoup, qui s'appelle Yossi Avilio. Alors, c'était son cinquième roman, d'ailleurs, Petite Fleur, entre parenthèses, Jamais ne meurt, c'est le titre, et c'est son premier livre publié en France, son cinquième roman, Petite Fleur, Jamais ne meurt. Le premier roman s'appelait Open Door, gros succès critique, d'ailleurs, qui est sorti en 2006. C'est quelqu'un pour qui ça marche très bien. Et l'histoire donc du film suggère que le personnage principal vit dans un lieu éloigné de sa ville d'origine. Alors, c'est Yossi Avilio, là, il a 48 ans, il continue à écrire, bien sûr. Alors, José accueille son premier enfant avec sa compagne dans un endroit où il ne se sent pas tout à fait à l'aise. Ça, c'est ce que nous explique le réalisateur. Le récit nous montre son déracinement. Il doit se débrouiller dans une langue qu'il parle à peine, alors qu'il ne se consacre plus, il ne se consacre plus du tout aux tâches. Il se consacre surtout aux tâches ménagères et à l'éducation de sa fille. Aïe, 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 voilà. C'est ça. J'avais perdu ma note qui était tombée, je la ramasse. Un jour, José assassine son nouveau voisin Jean-Claude. Et deux jours plus tard, celui-ci est à nouveau bien vivant, comme s'il ne lui était jamais rien arrivé. Et la situation se répète chaque semaine. Voilà. Donc, il a adapté ce roman. Il trouvait d'ailleurs que le ton et l'histoire, notamment les éléments fantastiques du récit, rappelaient l'étrangeté des films que certains cinéastes sud-américains ont tourné en France. Alors, il a donc écrit son scénario en pensant à la France. Voilà. Mais ben oui. Donc, c'est pas. Alors, la ville où le film se déroule n'est pas nommée. Voilà. Parce que le cinéaste gardait des images fortes de Clermont-Ferrand. Alors, à la sortie française de son premier film, qui s'appelait El Estudiante, il a été invité à faire une tournée dans plusieurs villes en province. Alors, il nous dit qu'il en était content et fier et qu'à son arrivée, on l'avait immédiatement remis dans un avion et il avait atterri à Clermont-Ferrand. Comme c'était un mois de janvier très froid, donc son premier contact avec la France n'était pas tout à fait ce qu'il avait imaginé. Mais la projection du film s'était très bien passée et tout le monde avait été très gentil avec lui. Voilà, il nous dit que Clermont est une très belle ville, même si je suppose que l'endroit où l'on m'avait logé n'était pas le meilleur hôtel de Clermont. Ah, voilà. Alors, le roman raconte l'histoire d'un homme qui se découvre un super pouvoir, tuer sans donner la mort. Alors qu'en fait, le film est plutôt centré sur le couple. Il nous dit qu'il avait beaucoup d'affection pour l'histoire d'amour, hein, cachée dans le roman, une histoire forte que je voulais encore renforcer. Le film développe le personnage de Lucie, la compagne de José, qui peu après son accouchement découvre qu'elle est incapable de créer un lien avec sa fille, incapable d'assumer son rôle de mère. Ben, tout le monde sait, nous dit le réalisateur, que devenir parent pour la première fois produit des sensations inédites. Et ça a un impact sur le corps, ça agit sur les émotions et la réalité. Donc le film s'attache à un jeune couple qui traverse sa première vraie crise. Voilà, donc là, vraiment, moi je voulais en parler, parce que je crois que c'est vraiment un film vraiment très excellent. Voilà. Alors il y a Hervé Villard, oui j'ai nommé Hervé Villard tout à l'heure, il est au casting, ben oui, voilà. Alors il est principalement connu, Hervé Villard, pour son titre « Caprice est fini ». Alors bon, ben, le réalisateur nous dit que les chanteurs romantiques français étaient très populaires en Argentine dans les années 70 ou 80. Il y avait Hervé Villard, Alain Barrière, Michel Sardou même. Ils ont fait des tournées chez nous, dit-il, et Villard a beaucoup enregistré en espagnol. Voilà pourquoi il est au casting, Hervé Villard. Une sacrée histoire.
C'est ça, Hervé Villard, donc, dans Petite Fleur de Santiago Mitre.
Oui, Santiago Mitre. Je ne sais pas, non, il n'y avait peut-être pas une bande-annonce, là, si.
J'en ai pas trouvé en version française.
D'accord, on ne l'a pas en version française. C'est ça. OK.
Mais par contre, on va retrouver un film français maintenant de Jean-Loup Martin. Ça s'appelle Le Pied Nickelé. Alors, ce n'est pas Les Pieds Nickelés au pluriel, c'est Le Pied Nickelé. Il y en a
que. Ah, ben oui. Mais justement, on va y venir au Pied Nickelé. Alors, Le Pied Nickelé, oui, c'est une comédie française d'1h38. Jean-Loup Martin, tu as dit, réalisateur, scénariste, monteur. C'est son deuxième long métrage. Le premier, c'était une animation, à partir de 3 ans d'ailleurs, qui est sorti en 2016, qui s'appelait Quinoa et l'île merveilleuse. Et alors, il travaille avec Chantal Gerlier-Martin, qui est auteur et scénariste. Et le scénario est adapté de l'œuvre de Louis Forton. Louis Forton, c'est le créateur de la bande dessinée Les Pieds Nickelés. Alors, ils étaient trois, Les Pieds Nickelés. Alors, je sais pas si tu te souviens des noms, toi. Moi, ça m'est revenu.
Non, moi, je me rappelle pas du tout.
Ah là là, Croquignol, Ribouledingue, Filochard. C'était les trois Gus, vraiment arnaqueurs, escrocs, enfin bref, et tellement sympathiques. Alors, Louis Forton, le créateur, c'est 1879-1934. En fait, il est décédé, hélas, à 55 ans, des suites d'une opération chirurgicale. Bah ouais. Et la bande dessinée Les Pieds Nickelés est sortie en 1908. Et il a créé également un personnage que moi, j'adore, je ne sais pas, mes chéris, si vous connaissez, Bibi Fricotin. Ben, Bibi Fricotin, lui, il est sorti en 1928. C'était Bibi Fricotin et Razibus Zouzou, qui est son copain dans les histoires, hein, Bibi Fricotin. Et là, on est avec Le Pied Nickelé. Ça se passe en 2021. Gabriel se réveille après un coma de 35 ans. Il a hérité de la fortune des Pieds Nickelés, trio célèbre d'arnaqueurs. Pour la mériter, Gabriel, qui découvre les réseaux sociaux et le smartphone, doit retrouver leurs 3 paires de chaussures. S'ensuit un périple fait de rencontres de personnages se comportant comme de véritables pieds nickelés. Point d'exclamation. Alors, on a René Colomba. Alors, c'est lui qui joue le pied nickelé. On a Serge Papagali, qui joue un des personnages qui se comporte comme les pieds nickelés. On a Louise Corr, on a Alix Benessèche, on a Isabelle Morini-Bosque, on a Gilles Pellegrini, voilà, dans les rôles principaux. C'est chouette, c'est drôle comme tout. Moi, je les trouve, René Colomba et les autres, d'ailleurs, je les trouve plein de talent. On s'amuse beaucoup quand même, hein. c'est drôle, voilà. Les pieds nickelés. Moi, c'était Croquignol que je préférais, je crois, à l'époque, quand je disais les bandes dessinées. Oui, Je les revois là, physiquement, un petit peu. Enfin, physiquement, si on peut dire, les dessins en tout cas. Oh ben écoute, hein, moi, un jour, je te prêterai la bande dessinée. J'en ai deux ou trois, Damien, si tu veux. Eh bien, tu connaîtras comme ça, Croquignol, Rebouledingue, Filochard, le pied nickelé. J'avais pas envie de passer à côté. Je sais pas, il y avait une bande-annonce, peut-être, je sais pas.
Eh bien, on va l'écouter tout de suite, le pied nickelé.
Merci.
Vous êtes resté 35 ans dans le coma. Ça fait un sacré tout dans votre CV.
Alors c'est vous l'éveillé.
C'est donc lui, le type dans le coma.
C'est ça. T'as déjà fait quoi, votre docteur Jambon?
Et si je retourne dans le coma?
Impossible.
Enfin.
Ah, les pieds nickelés. De sacrés numéros. Vous êtes leur seul héritier.
Tu m'es apparu comme la victime idéale.
Seulement, il y a une condition.
Je cherche les pieds nickelés.
Les pieds nickelés sont partout.
Moi aussi, je sors d'un truc de 35 ans.
Ah ! Ah !
Wow ! Ce sont celles de Croquignol. Croquignol, c'était le plus intelligent de la bande.
Et si... Et s'il me dit quelque chose qui fait que je retourne dans le coma?
Dans lequel il pensait avant!
Vous devez réunir les trois paires de chaussures. Les chaussures de Croquignol, Filochard et Rebouledingue.
Rebouledingue? C'est dingue!
Filochard était borgne, mais pas unijambiste.
Mais la mère dit encore? Non mais, il les a vitrifiés avec la mère dessus?
Filochard a rejoint deux de ses amis pour une combine un peu douteuse. En tout cas, un soir d'orage, ils ont disparu.
Attendez!
Et voilà donc le pied nickelé de Jean-Loup Martin. Et maintenant, c'est le Ghostbusters de la... le Blockbusters, pardon, de la semaine... Jurassic World, le monde d'après de Colin Trevorrow.
Ah ben oui, ah là là. Alors là, c'est sûr que là, on a droit donc à cette à la suite de cette saga. Bon, on va rappeler quand même vite fait, Jurassic Park est sorti en 1993, le premier, c'était Steven Spielberg, hein, le grand réalisateur. Donc, il y avait Sam Neill et Laura Dern dans les rôles principaux. C'était l'histoire du milliardaire John Hammond, qui est joué d'ailleurs par un acteur formidable qui s'appelle Richard Attenborough, qui est un grand acteur. Donc, John Hammond, le milliardaire, il ouvre à ce moment-là, au début du film, on va tout de suite faire sa connaissance, il ouvre le grand parc à thème du monde, le plus grand parc à thème, pardon, du monde, avec des dinosaures clonés. Ah oui, il a cloné des dinosaures. On se souvient peut-être de la fin de Jurassic Park. Enfin, c'était pas vraiment une fin, justement, puisque tout de suite après, on a eu en 2015, enfin pas tout de suite d'ailleurs, il a fallu quelques années, Jurassic World de Colin Trevorrow, celui qu'on retrouve là aujourd'hui, qui est un réalisateur américain, on va en parler. Alors dans ce film, il y avait Omar Sy, eh oui, notre Omar Sy, ouais, il y avait Chris Pratt aussi dans les rôles principaux, Omar Sy en faisait partie. C'est l'Indominus Rex qui sème la terreur dans le parc. C'est ça, Jurassic World. Aïe, aïe, aïe. Et puis après, il y a eu, en fait, Jurassic World, Fallen Kingdom, de Juan Antonio Bayona, qui est un réalisateur espagnol de 47 ans. Ouais. Alors, dans Jurassic World, Fallen Kingdom, ça fait 3 ans que les dinosaures se sont échappés de leur enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Alors, il y avait toujours les mêmes acteurs, hein, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, c'est l'héroïne. On avait Ralph Spall, on avait Justice Smith, enfin, toujours les mêmes, hein, qu'on avait déjà dans Jurassic World. Et puis là, eh ben voilà, on arrive donc à Jurassic World, le monde d'après. Alors, celui-là, c'est pas le moins mouvementé, disons. Hein. Alors Colin Trevorrow, justement, celui qui a réalisé, je le disais tout à l'heure, le Jurassic World en 2015, ben, il remet le couvert. Réalisateur, scénariste, producteur américain, il a 45 ans, il a 9 ans de carrière et 14 tournages à son actif. Alors en fait, on lui devait aussi en 2012, par exemple, Safety Not Guarantee, c'est-à-dire la sécurité n'est pas garantie, qui a eu 3 nominations à l'European Festival Film Fantastique de Strasbourg et une aussi à la Sundance Film Festival, il a été très bien reçu. C'est l'histoire de 3 journalistes qui enquêtent sur le mystérieux auteur d'une petite annonce qui cherche un compagnon pour voyager dans le temps. Il avait eu également, d'ailleurs, une nomination à l'Independent Spirit Award. Donc, très bien reçu, Safety Not Guarantee. Et là, alors, Jurassic World, ça dure quand même 2h26. Science-fiction, action, aventure, c'est américain, bien sûr. 4 ans après la destruction du parc Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien de l'humanité entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l'espèce humaine, maintenant qu'elle doit partager son espace avec les créatures les plus féroces que l'histoire ait jamais connues. Chris Pratt, eh ben oui, c'est toujours lui, Owen Grady. Il est un ami de dinosaures, il est très cool, hein, il est toujours très paisible. On va voir ce qu'il devient là, dans celui-là. Et puis on a encore Bryce Dallas Howard, hein, c'est toujours elle. On a Omar Sy, eh ben oui, Omar Sy revient. Il revient dans ce Jurassic World, le monde d'après. On a B.D. Wong, on a Laura Dern et Sam Neill. Mais oui, on avait parlé d'eux justement pour le premier, celui de Steven Spielberg, Jurassic Park. Ils étaient là, jeunes, 1993, beaucoup plus jeunes, bien sûr, mais c'était les héros. Laura Dern, c'est le docteur la doctoresse Ellie Sattler, et Sam Neill, c'était le docteur Alan Grant. Ben lui, il a 74 ans maintenant. Hein. Elle en a 55. Voilà, ils sont donc issus du Jurassic Park de 93. Et on retrouve également Jeff Goldblum, qui était le docteur Ian Malcolm, et qui a aujourd'hui 69 ans. Et on les retrouve tous les 3. Et comme ils sont pleins de talent, ben c'est plutôt une bonne nouvelle. On a, qu'est-ce qu'on a dans les rôles principaux ? Isabelle Lasserman, on a DeWanda Wiese. Voilà. Alors, on nous dit, eh bien, vivez la fin de l'ère jurassique par rapport à ce film. Donc, c'est quand même... il est de retour, donc je l'ai dit, Colin Trevorrow, pour ce troisième film Jurassic World. Après, justement, Fallen Kingdom, il revient, ben oui. Alors, il nous dit que ces films sont l'occasion de partager les derniers chapitres d'une histoire qu'on se raconte depuis plus de 30 ans à la chaleur d'un feu de bois. C'est un monde que Steven Spielberg et Michael Crichton ont créé ensemble et il ajoute, le réalisateur, et j'ai été assez chanceux pour en avoir la garde durant 3 films. Oui, et c'est ce que dit d'ailleurs également Omar Sy, qui dit qu'il a eu de la chance, d'être justement après Jurassic World, il est de retour parce qu'il a eu cette chance. À l'époque, il nous dit que Colin Trevorrow m'a donné une belle opportunité alors que je venais de débarquer sur le marché hollywoodien et que je ne connaissais rien ni personne. C'était super de revenir des années après un peu plus sûr de moi. Voilà ce que nous dit Omar Sy. Alors les lieux de tournage, ce sont des lieux de tournage quand même, c'est important parce que ce sont des endroits qui n'ont jamais figuré dans les précédents films de la saga. Et le réalisateur y tenait absolument. Alors on a le nord-ouest du Pacifique, on a l'ouest du Texas, on a l'Utah, on a San Francisco, on a Malte et les Dolomites. Voilà les lieux de tournage pour ce film que tout le monde attend. Et qui vont pouvoir maintenant aller voir. Voilà. 2h26.
Ça s'appelle Jurassic World, le monde d'après. Et maintenant, on va retrouver Adas Ben-Arroya à la réalisation du film All Eyes of Me.
Oui. Alors ce film, oui, c'est un film assez spécial qui dure 1h30. Il y a du drame, de la comédie, c'est un film israélien. Et Hadass Ben Arroya, tu l'as dit, scénariste, actrice, elle est israélienne, elle a 34 ans. C'est son deuxième long métrage, All Eyes Off Me. C'est interdit au moins de 12 ans, ça on va le noter, voilà. Et ça raconte en 3 chapitres liés. Le film, pendant ces 3 chapitres, le film suit une génération jeune et confiante. Dani est enceinte de Max. Elle veut profiter d'une fête pour le lui annoncer, mais elle n'y parvient pas. De son côté, Max explore les fantasmes sexuels de sa fiancée, Avishag. Celle-ci se confie à Dror, qui la paye pour garder son chien. Mais oui, entre le vieil homme Dror et la jeune femme, naît une intimité inattendue. Dans les rôles principaux, on a des acteurs israéliens, on va faire connaissance. C'est plutôt agréable de voir les acteurs d'ailleurs comme ça. Elisheva Veil, qui joue Avishag. On a Max, c'est Leib Lev Lenin. Dror, c'est Yoav Eit. Dani, c'est Hadar Katz. Dans les rôles principaux, ils sont pas mal du tout. Alors, en 2016, Hadass Ben Arroya avait réalisé People That Are Not Me. Elle jouait dedans, d'ailleurs, Hadass Ben Arroya. Il y avait Jonathan Bar-Hor aussi avec elle. Et il avait une nomination au Festival international du film de femmes de Créteil en 2017. C'était le grand prix du jury. Très beau prix pour People That Are Not Me 2016. Voilà. Alors, effectivement, je voulais en parler, absolument. Il me semblait que ça valait la peine. Je crois que c'est un joli film. Ah. Interdit au moins 12 ans, hein, ça, on l'a bien noté.
All Eyes Off Me.
Oui.
Et maintenant, ça va être une reprise d'un film de Jean Eustache. Et ça s'appelle La Maman et la Putain. Alors, qu'est-ce que c'est cette reprise? Parce que ce film est sorti il y a longtemps. Il a été restauré, il ressort maintenant. Comment ça se passe?
Tout à fait. La Maman et la Putain, il date du 17 mai 1973. Et Jean Eustache, tu l'as dit, c'est un réalisateur, un monteur, un acteur français, malheureusement, qui nous a quittés. On a parlé de lui il n'y a pas longtemps et de son fils, qui porte justement cet héritage qu'il a. Il est décédé à 42 ans, alors qu'il avait encore plein de films à réaliser, plein de choses à faire, et c'est son fils qui a hérité, qui hérite de ça, et c'est un lourd héritage. On avait parlé dans un documentaire il n'y a pas très longtemps du fils de Jean Eustache. Donc il a eu 18 ans de carrière, ça veut dire qu'il avait commencé très jeune, 26 tournages à son actif. Et il avait eu d'ailleurs en 1982 le César du meilleur court-métrage pour les photos d'Alix. Et ça l'avait lancé quand même par rapport au long-métrage. Alors en fait le film La Maman et la Putain fait partie de la sélection de Cannes Classique en 2022 là. D'ailleurs, quand j'ai parlé, moi, du Festival de Cannes et des résultats, j'ai nommé La Maman et la Putain en disant qu'effectivement, il avait été choisi pour Cannes Classique. Ah, il en faisait partie. Alors, il a eu donc un grand prix et deux nominations au Festival de Cannes 1973. Donc, la reprise, c'est le 8 juin en 2022, c'est-à-dire là, maintenant. C'était l'histoire d'Alexandre, qui est un jeune oisif, qui vit avec et au crochet de Marie, boutiquière sensiblement plus âgée que lui. Il aime encore Gilberte, étudiante, qui refuse la demande en mariage qu'il lui fait en forme d'expiation. Il accoste alors qu'elle quitte une terrasse Véronica, interne à l'ANEC. Je me laisse finalement aborder, comme vous avez pu le constater. Je peux coucher avec n'importe qui, ça n'a pas d'importance. Marie accepte, quoique difficilement, de partager son homme avec elle. Et alors là, on avait un casting royal quand même. Hein. Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léo, Françoise Lebrun, Isabelle Van Garten, Jean Douché, Jean Eustache, Caroline Loeb, Douchka, André Téchiné. Mais oui, André Téchiné dans ce film, ce grand réalisateur qui a désormais 79 ans et dont on a beaucoup aimé toutes ses réalisations. Voilà, La Maman et la Putain. Belle reprise quand même. Hein. Je ne sais pas si tu avais une bande-annonce, je ne sais pas, là.
Eh bien, on écoute ça.
Ben oui.
Je suis persuadé que tout ce qui est arrivé dans le monde ces dernières années est totalement dirigé contre moi. Il y a eu la révolution culturelle, mai 68, les Rolling Stones, les cheveux longs, les Black Panthers, les Palestiniens, l'Underground, et depuis 2-3 ans, plus rien. La musique pop est devenue religieuse, et je n'aime que la musique populaire.
Je vous ai suivi parce que j'avais envie de rester avec vous.
Vous êtes très gentil, mais je ne peux pas.
Je croyais que vous ne faisiez rien.
Non, je ne fais rien, mais je vous ai dit, j'ai une vie bien remplie.
Une femme me plaît, par exemple, parce qu'un homme que j'admire est amoureux d'elle. Quel plus grand hommage peut-on rendre à un homme que de lui prendre sa femme ?
Depuis que je vous ai rencontré, je me suis fait des petits rêves érotiques avec vous. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas être mal au lit.
Ça dépend des jours et des opinions.
Bah écoutez, s'il vous plaît, autant que ça, mais baisez-la, tiens, baisez-la pendant que je serai à Londres.
Comment voulez-vous faire l'amour ? Tendrement ou violemment ? Chaque matin, chaque jour que nous ne passons pas ensemble, est un jour que nous perdons. C'est un massacre, c'est un crime.
J'ai envie de rebaiser avec vous. Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas le droit de dire qu'elles ont envie de baiser avec un type ?
Écoutez, mon vieux, je dois vous dire que vos amours commencent à m'emmerder.
Je suis affreuse.
Mais vous avez une façon d'être affreuse qui vous va très bien.
Foutez-moi le camp ! Oust ! Je liquide !
Mon cœur est une fleur d'automne sans ça.
Comme vous êtes beau, comme vous êtes con, comme je vous déteste.
Je vous le donne.
Voilà La Maman et la Putain de Jean Eustache. Et pour terminer, un film de fiction d'Alex Garland, ça s'appelle Men.
Men, eh oui, les hommes. C'est interdit au moins de 12 ans, attention, avec avertissement. Donc là, ça rigole plus. C'est normal, puisque ça dure 1h40, c'est un drame, c'est de la science-fiction, c'est de l'épouvante et de l'horreur, mais du bon cinéma. Alex Garland, oui, bah oui, réalisateur, scénariste, auteur britannique, il a 52 ans, 22 ans de carrière, 16 tournages, il a eu quand même dans sa vie 2 prix et 13 nominations. Par exemple, en 2016, il a eu le prix du meilleur, de la meilleure réalisation pour un premier film de science-fiction thriller. Il a eu le prix du jury en 2015 au Festival du film fantastique de Gérard Mer. Donc, c'est quelqu'un qui fait du bon cinéma, un petit peu épouvante, mais quand même. Alors, le film est présenté à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes 2022. Après avoir vécu un drame personnel, Harper décide de s'isoler dans la campagne anglaise en espérant pouvoir s'y reconstruire. Mais une étrange présence dans les bois environnants semble la traquer. Ce qui n'est au départ qu'une crainte latente se transforme en cauchemar total, nourri par ses souvenirs et ses peurs les plus sombres. Eh oui, alors on a Jessie Buckley, qui joue Harper d'ailleurs. On a Rory Kinnear, on a Parappa Esiedu, on a Gail Rankin. Ce sont des acteurs britanniques. C'est donc du bon cru, hein, du bon cru dans la science-fiction, le drame, l'épouvante et l'horreur. Il fait de bons films de ce genre, Alex Garland. Et c'est pour les amateurs, et Dieu sait qu'il y en a des amateurs de ce genre de cinéma. Eh bien, c'était pour eux que je voulais absolument en parler. Alors, tout le monde s'y est mis, là. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord, c'est-à-dire le Royaume-Uni, en fait, s'est mis justement à la production pour ce film, Men.
Voilà, donc Men, c'était le dernier film de fiction du jour. Et tu nous proposes un documentaire pour clôturer cette émission. Documentaire d'Irina Tzilik qui s'appelle The Earth is Blue. as an orange. Ça veut dire que la terre est bleue comme une orange.
Et oui, et c'est Paul Éluard, le poète, notre poète français surréaliste, 1895-1952, il a fait une crise cardiaque à 57 ans, donc il est mort relativement jeune. C'est lui qui a écrit « La terre est bleue comme une orange ». Ça évoquait le bonheur partagé des premiers temps de son union avec Gala. Paul Éluard. Donc ça, voilà, le titre a été pris à Paul Éluard. Et c'est, tu l'as dit, Irina Tsilik, qui est réalisatrice, scénariste et les chefs monteurs. Elle est ukrainienne et soviétique. Elle a 39 ans, c'est son deuxième long métrage. Elle a un prix et deux nominations au premier plan d'Angers 2021. Elle a le prix mention spéciale du jury. Elle est nommée grand prix du jury long métrage, grand prix du jury diagonal. Très chouette tout ça. Ça dure 1h14. Ce documentaire est ukrainien et lituanien. Voilà, je savais que j'allais l'écorcher. Documentaire. Alors, Anna et ses enfants vivent dans une zone de conflit en Ukraine. Poussée par sa passion du cinéma, elle fait de leur maison un plateau de tournage secret, un terrain d'aventure cinématographique surréaliste pour survivre à la folie et à la violence quotidienne. Un documentaire en immersion qui témoigne du pouvoir guérisseur de l'art. On n'en doutait pas hein, que l'art pouvait effectivement être très très utile dans certains cas, surtout là justement. Et voilà ce qui explique qu'elle ait pris ce titre, La terre est bleue comme une orange. C'est surréaliste ce qu'elle fait. Et Paul Éluard était un poète surréaliste, justement. Et voilà.
Voilà donc les films de la semaine proposés par Anne sur Radio Entre-deux-Mers, 98.4 FM, www.redem.org. Et pour retrouver les podcasts, c'est sur le www.redem.com. Merci beaucoup Anne et bonne semaine à toi.
Mais oui, merci beaucoup à toi aussi Damien, merci pour ton soutien, tes bandes annonces, tout ça, d'être là aussi avec moi. Mes petits chéris, mes chers auditeurs, merci à vous aussi d'être à l'écoute de radio, de notre radio, c'est ça que je voulais dire, Radio Entre deux Mers, notre radio qui vous propose quand même beaucoup d'émissions, des belles musiques, enfin un tas de choses. C'est voilà, pour moi, c'est une évidemment. C'est ma radio, c'est une excellente radio que j'aime beaucoup et que j'écoute beaucoup. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez heureux, hein, le plus possible, vraiment quoi. Profitez de la journée qui passe, carpe diem. N'oubliez pas, hein, du matin au soir, profitez-en un maximum. Eh ben oui. Et puis prenez soin de vous tout de même, hein, et de votre entourage. On continue à prendre soin, bien sûr, tous, hein, on s'y met tous. Et puis n'oubliez surtout pas. Que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.
Beaux yeux, tu